Chapitre 3. C'était bien M. Derblay, ainsi que l'avait affirmé Vachelin, que le marquis de Beaulieu avait rencontré dans les bois de Pont-Aven, vêtu comme un braconnier. Laissant Octave l'appeler à grands cris, il s'était élancé à travers bois, piquant droit devant lui, insensible aux coups de fouet des branches et aux arrachements des épines. Il riait nerveusement, murmurant des mots entrecoupés d'exclamations, joyeux profondément du hasard qu'il avait rapproché de celle qu'il adorait, de loin et en rêve, comme une jeune reine entrevue. Il descendait la côte qui mène à la vallée, dévorant le terrain avec ses longues jambes, inconscient de la vitesse de sa marche qui lui mettait des gouttes de sueur au front. Il allait suivant sa pensée, qui volait rapide et ailée. Lorsque le marquis saurait à qui il avait eu affaire, car il finirait certainement par le savoir, il aurait de la gratitude pour le procédé courtois dont son voisin incommode, disait-il, avait usé envers lui. Et qui sait, il s'ensuivrait peut-être un rapprochement. Et il verrait de près cet adorable clerc dont le doux visage souriait perpétuellement dans son souvenir. Il lui parlerait. À cette idée, un nuage passait devant ses yeux. Il lui semblait que les paroles s'étrangleraient dans sa gorge et qu'il resterait muet devant elle, comme anéanti par l'émotion. Alors, il irait se réfugier dans quelque coin sombre du salon, et de là, il la regarderait à son aise, il se perdrait dans sa contemplation, et il serait heureux. Heureux. Et comment? À quoi pouvait le mener cette folle tendresse? À assister plus intimement au mariage de celle qu'il désirait avec passion. Car il était certain que le duc de Bligny reviendrait. Comment un homme, aimé d'une telle femme, eût-il été assez fou pour la dédaigner? Et si ce n'était le duc, ce serait un autre prétendant qui se présenterait, un brillant gentilhomme qui n'aurait qu'à paraître et à se nommer pour être accueilli à bras ouverts. Tandis que lui, le roturier, il serait éconduit avec une dédaigneuse froideur. Une profonde tristesse descendait à lui à cette pensée. Et ses forces, comme détendues, s'alanguissaient. Il ne courait plus maintenant vers Pont-Aven, filant comme un grand fauve sous la futaie. Il cheminait à pas lents, arrachant machinalement des feuilles aux branches et les froissant entre ses doigts. Quel malheur était le sien de ne pouvoir aspirer à la possession de cette créature idéale. Et, pensif, il s'était arrêté au pied d'un chêne. Debout, le dos appuyé au tronc d'arbre, sans penser à s'asseoir, il restait là, songé, le visage grave et pâle, les yeux mouillés par une angoisse cruelle. Il repassait dans son souvenir ce qu'il avait déjà fait dans la vie et se demandait si la tâche accomplie par lui ne le rendait pas digne de tous les bonheurs. Après de très brillantes études, il était sorti le premier de l'école polytechnique et avait choisi le service des mines. Au moment où il venait d'être nommé ingénieur, la guerre avait éclaté. Il avait alors 22 ans. Sans une hésitation, il était allé se faire enrôler comme volontaire et était parti dans un régiment de l'armée du Rhin. Il avait assisté au sanglant revers de Frechwiller et il était revenu au camp de Châlons avec les débris du premier corps d'armée. Puis il avait participé à la désastreuse marche sur Sedan et s'était vu, le soir de la bataille, prisonnier de guerre et gardé à vue par les Uhlans prussiens. Mais il n'était pas d'un caractère à se laisser prendre ainsi, et, rampant dans l'obscurité, il avait profité de la nuit pour traverser les lignes allemandes. Entré en Belgique, il n'avait pris que le temps de gagner Lille, et là avait été incorporé dans un des régiments qui se formaient. La guerre avait continué. Il avait vu, lentement et sûrement, l'invasion s'étendre sur le pays comme une mortelle gangrène. Distingué par le général Faidherbe, il avait fait auprès de lui la campagne du Nord. Blessé d'un coup de feu à Saint-Quentin, il était resté pendant 6 semaines à l'hôpital, entre la vie et la mort, et s'était réveillé de son long engourdissement pour frémir en apprenant que Paris était aux mains de la Commune. Sa convalescence lui avait épargné la triste obligation de faire le coup de feu contre des Français, et il s'était dirigé vers la maison paternelle, souffrant encore de sa blessure, mais portant sur la poitrine le ruban de la Légion d'honneur qui lui avait été apporté par son général lui-même sur son lit d'hôpital. Une douleur plus vive que toutes celles qu'il avait subies en si peu de temps l'attendait au logis. Il avait trouvé la maison en deuil. Sa mère venait de mourir, laissant privée de ses soins la petite Suzanne, âgée seulement de 7 ans. M. D'Herblay, forcé de partir par d'immenses affaires qui réclamaient sa présence, avait laissé sa fille seule, sous la garde de serviteurs dévoués. L'arrivée de Philippe avait causé un redoublement de douleurs et de larmes. La petite Suzanne s'était attachée à son frère avec la tendresse convulsive d'une enfant livrée à l'effarement de l'abandon. Elle se serrait contre lui comme un pauvre petit être faible qui demande appui et secours. Philippe, cœur simple et tendre, avait adoré cet enfant qui avait si grand besoin d'affection et qui en trouvait si peu entre un père tout entier aux affaires et des domestiques fidèles mais incapables de ces tendresses délicates qui sont plus nécessaires que les soins matériels même à la vie des enfants et des femmes. Il avait fallu cependant s'éloigner et reprendre le collier de travail. Ce départ avait été pour Suzanne une déchirante douleur. Les adieux que lui faisait son frère renouvelaient pour l'enfant les désespoirs qu'il avait accablés quand elle avait perdu sa mère. Mais la destinée avait décidé que la séparation ne serait point longue. 6 mois plus tard, M. D'Herblay, foudroyé par l'excès du travail, mourait à son tour et Philippe et Suzanne étaient désormais seuls dans la vie. Des devoirs nouveaux s'étaient imposés alors au jeune homme. La liquidation des entreprises paternelles avait été très compliquée et fertile en pénibles surprises. M. D'Herblay, homme d'une intelligence remarquable, avait un grave défaut. Il embrassait plus qu'il ne pouvait étreindre. Il dépensait son activité dans des affaires différentes sans pouvoir réussir à les mener toutes de front avec un égal succès. Le gain de l'une était absorbé par les pertes de l'autre. Il était sans cesse débordé par un flot toujours grossissant de difficultés qu'il surmontait momentanément à force d'habileté et d'énergie, mais qui devait forcément l'engloutir tôt ou tard. Il avait disparu avant la catastrophe, laissant une succession des plus embrouillés. Philippe avait devant lui une carrière superbe et toute tracée. Il eût pu abandonner les entreprises de son père, liquider le mieux possible et suivre son chemin. Mais c'était la ruine. Toutes les ressources paternelles passeraient à sauver le nom, et sa sœur resterait sans fortune. Le jeune homme n'avait pas hésité, il avait renoncé à son avenir, donné sa démission, et, chargeant sur ses épaules le lourd fardeau sous lequel avait succombé son père, il s'était fait industriel. La tâche avait été rude, il y avait de tout dans l'héritage de M. D'Herblay. Des verreries à Courtalin, une fonderie dans le Nivernais, des ardoisières dans le Var et les forges de Pont-Aven. Philippe s'était jeté à corps perdu dans le gouffre et avait essayé de rassembler les épaves dispersées. C'était un travailleur intrépide et pendant 6 ans, il avait donné ses jours et la plus grande partie de ses nuits à l'œuvre de sauvetage si vaillamment entreprise. Tout ce qu'il avait trouvé d'argent comptant, il avait employé à remettre les affaires en état. Puis, à mesure qu'il leur avait rendu le mouvement d'abord et la prospérité ensuite, il les avait cédés, ne gardant en définitive que les forges dont il avait compris toute la valeur. En 7 ans, il avait liquidé l'héritage paternel et maintenant il n'avait plus que la fonderie du Nivernais qu'il exploitait parallèlement avec l'usine de Pont-Aven, se servant du fer de celle-ci pour alimenter la production de celle-là. Il était maintenant hors du péril et maître de ses affaires. Il se sentait capable de leur donner une considérable extension. Adoré dans le pays, il pouvait se présenter aux élections et être nommé député. Qui pouvait savoir? Cette élévation était de nature à flatter une femme. Et puis, l'industrie aussi était une puissance dans ce siècle d'argent. Et peu à peu, l'espérance renaissait dans son cœur. Il s'était remis à marcher. Et déjà, il sortait des bois. Les prairies qui couvrent la vallée s'étendaient sur sa droite. À sa gauche, s'étageaient les premières assises de rochers qui servent de base à la colline. Dans ces assises étaient percées les entrées de la mine. Un petit chemin de fer montait en pente douce vers les galeries, conduisant directement le minerai à l'usine. Philippe, brusquement arraché à ses méditations, résolut d'aller jeter un coup d'œil sur l'exploitation, et, se détournant, il prit le chemin de la mine. Sur un petit mamelon s'élevait la baraque du contremaître chargée de contrôler les sorties. C'était là que Philippe allait. À mesure qu'il approchait, il lui semblait entendre comme des cris. Une agitation insolite se produisait à l'entrée des galeries. Le maître de forge activa sa marche. En quelques minutes, il fut sur la place et put se rendre compte des causes de ce tumulte inusité. Un éboulement, amené par des infiltrations d'eau, venait d'avoir lieu sur la voie du chemin de fer. Les wagons s'étaient renversés et, au pied du talus, un amoncellement de sable et de madriers écroulés avait enseveli le conducteur du train en marche, un enfant de 15 ans. Quelques ouvriers et beaucoup de ménagères, rapidement venus du village, formaient un groupe animé, au milieu duquel pleurait, en gesticulant, une femme affolée. Philippe, écartant les assistants, entra vivement au milieu du cercle. « Qu'est-ce qu'il y a donc ? » s'écria-t-il avec inquiétude. « Ah, monsieur Derblay !» fit la femme en redoublant ses gestes et en se mettant à hurler à la vue du maître de forge. « C'est mon pauvre gars, mon petit Jacques, qui a été entraîné avec son wagon et qui est là-dessous depuis 3 quarts d'heure !»« Et qu'est-ce qu'on a fait pour l'en tirer ?» interrogea vivement Philippe en se tournant du côté des mineurs. « On a déblayé autant qu'on a pu, patron, » dit un chef d'équipe en montrant une large excavation. Mais maintenant, on n'ose plus toucher aux charpentes. Un faux mouvement pourrait tout faire crouler et l'enfant serait sûrement écrasé. « Il y a 10 minutes, il nous parlait encore !» s'écria la mère au désespoir. « Maintenant, on ne l'entend plus. Bien sûr, il est étouffé. Ah, mon pauvre petit gars, on va donc le laisser là ?» Et la malheureuse, éclatant en sanglots, se laissa tomber accablée sur la pente gazonnée du talus. Jetant son fusil aux mains des assistants, M. Derblay s'était précipité à plat ventre dans la terre et, la tête au bord de l'excavation, sous les madriers entrecroisés, il écoutait. Le silence s'était fait dans la tombe de sable où gisait l'enfant. « Jacques !» cria M. Derblay, dont la voix sonna, sourde et lugubre, sous la couche de terre et de bois. « Jacques, m'entends-tu ?» Un gémissement lui répondit, et au bout d'un instant, ses paroles faibles et entrecoupées parvinrent jusqu'à lui. « Ah, patron, c'est vous ! Ah, mon Dieu ! Si vous êtes là, alors je suis sauvé !» Cette naïve confiance troubla profondément Philippe, qui résolut de tenter même l'impossible pour réaliser l'espoir de l'enfant. « Peux-tu encore bouger ? » reprit-il. « Non ! » murmura le petit, haletant et presque étouffé. « Et puis, je crois que j'ai la jambe cassée !» Ces mots, entendus au milieu d'un silence de mort, arrachèrent aux assistants un douloureux murmure. « N'aie pas peur, mon garçon, nous allons te tirer de là !» reprit Philippe. Et, se dressant, « Allons, vous autres, prenez-moi des étançons et levez ce madrier » dit-il aux ouvriers, en montrant une longue poutre profondément enfoncée sous les débris et qui formait comme un levier naturel. « Pas moyen, patron !» reprit le contremaître en secouant tristement la tête. « Tout tomberait. Il n'y aurait qu'un procédé, ce serait de se glisser à 3 ou 4 hommes solides dans le trou que nous avons commencé à creuser et d'essayer de dégager le gamin qui ne peut plus remuer. Pendant ce temps-là, avec des criques, on soutiendrait, mais c'est joliment risqué. Et il y a bien des chances pour y rester. « N'importe, il faut y aller !» dit résolument le maître de forge en regardant ses ouvriers. Et comme tous restaient immobiles et silencieux, une flamme monta à son visage. « Si l'un de vous était là-dessous, que penserait-il de ses camarades qu'il y laisserait ? Allons, puisque personne de vous n'ose, c'est donc moi qui irai !» Et courbant sa haute taille, Philippe se glissa sous les décombres. Un cri d'admiration et de reconnaissance s'éleva de la foule. Et comme s'il eût suffi de donner l'exemple pour rendre à tous ces braves gens leur courage, 3 hommes entrèrent à la suite du maître de forge, pendant que tous les assistants, réunissant leurs forces, s'arc-boutaient sous les madriers et les soulevaient avec d'incroyables efforts. Le silence s'était fait de nouveau. On n'entendait plus que les sanglots de la mer accablée et gémissante et les respirations rudes des sauveteurs écrasés sous le poids supporté. Quelques minutes, longues comme des siècles, pendant lesquelles la vie de 5 hommes était en suspens, s'écoulèrent, puis une clameur de joie s'éleva. Souillés de terre, les mains et les épaules déchirées, les 4 hommes sortaient du trou et dans ses bras, Philippe le dernier rapportait l'enfant évanoui. Un craquement effroyable retentit. Les madriers, lâchés par les ouvriers, venaient de retomber sur la fosse, vide maintenant de son prisonnier. La mère, à moitié folle, se partageait entre son enfant et le maître de forge. La foule, émue, silencieuse, entourait respectueusement le sauveur et le sauvé. « Allons, emportez-moi ce gamin-là chez lui, » dit gaiement M. Derblay, « et faites prévenir le médecin. » Puis, rajustant ses habits et reprenant son fusil, le maître de forge se dirigea vers Pont-Aven. La nouvelle du sauvetage avait suivi de près le bruit de l'accident. Et en arrivant en face de la grille du château, Philippe vit venir devant de lui sa sœur escortée de Bachelin. Suzanne, en apercevant son frère, hâta le pas. Elle approchait, vêtue d'une robe claire, balançant sur son épaule une grande ombrelle rose qui, par cette belle journée d'octobre ensoleillée, abritait utilement sa tête charmante. Mademoiselle Derblay avait 17 ans et son frais et gai visage offrait une délicieuse expression de confiance et d'honnêteté. Ses yeux bruns riaient plus encore que ses lèvres. Elle n'était pas singulièrement belle, mais elle avait une grâce tendre et naïve qui la rendait irrésistiblement séduisante. Dans son impatience, elle s'était mise à courir vers son frère, en laissant aller derrière elle sa grande ombrelle qui se gonflait comme une voile. Et comme Suzanne ouvrait les bras pour sauter au cou de son frère, « Ne me touche pas !» s'écria Philippe en repoussant la jeune fille. « Je suis couvert de boue. Je te perdrai ta robe. »«
Qu'est-ce que ça fait ?» s'écria Suzanne avec un joyeux emportement. « Oh, je veux t'embrasser. Tu as sauvé l'enfant. Oh, mon Philippe, comme c'est bien toi toujours qu'on trouve, dès qu'il y a à faire quelque chose de beau et de bon. »
Et la jeune fille prit à pleine main la tête brune de son frère et l'embrassa tendrement. Bachelin, distancé par la course de Suzanne, arrivait essoufflé.
« Eh bien, mon cher ami, » fit le notaire, « encore une bonne action à votre actif. »
« N'en parlons pas, je vous prie, » interrompit Philippe en souriant. « Cela n'en vaut vraiment pas la peine. Le plus grave de l'affaire, c'est que je crois l'enfant blessé. Tu feras bien de pousser jusque chez lui avec ta pharmacie, Suzanne. Et s'il y a quelques frais à faire, tu y pourvoiras. »
« J'y vais, mon frère, » dit la jeune fille. « J'emmènerai Brigitte avec moi, n'est-ce pas ?»«
Sans doute. Et nous, mon cher maître, rentrons, » ajouta Philippe en se tournant vers Bachelin. « Je suis fait comme un voleur et j'ai besoin de me changer. » Suzanne s'était dirigée vers les communs du château. Philippe et le notaire traversèrent la vaste cour carrée plantée de vieux tilleuls, au centre de laquelle une large pièce d'eau rectangulaire, entourée d'un parterre de fleurs, lancée dans les airs son jet d'eau, dont les cascades tombaient en poussière fine, chassées par le vent et irisées par le soleil. Ce bassin était le dernier vestige des eaux immenses qui faisaient autrefois une ceinture au château. La Veine avait été détournée de son cours et répandue dans les douves par les anciens seigneurs de Pont-Aven. Sous Louis XIII, un barrage fut construit à l'endroit de la prise d'eau et les fossés furent vidés. Le limon qui en garnissait le fond, mélangé à de la terre végétale apportée à grands frais, fut le sol admirable de fécondité dans lequel poussèrent les arbres fruitiers qui sont encore aujourd'hui la merveille de Pont-Aven. Il y a des poiriers et des pêchers qui ont près de 200 ans et qui produisent des fruits uniques dans la contrée. Ces larges douves, dont les murs servent d'espalier, sont comme des réservoirs dans lesquels le soleil emmagasine ses rayons vivifiants. Il y fait chaud ainsi que dans une serre, et l'âpre vent d'hiver ne peut y pénétrer pour brûler les arbres et les dessécher. Le château est posé sur un massif en grès brun qui l'élève et lui donne de l'élégance. Mais il est noir et triste. Ses grands toits d'ardoise se découpent lugubrement sur le ciel. Philippe, ayant pris le parti de se confiner dans une aile de la vaste et froide demeure, le reste est fermé. Et sans les soins de Brigitte, la sœur de lait de Suzanne, qui, malgré son jeune âge, grâce à une précocité heureuse, remplit avec autorité les fonctions de gouvernante, le château serait complètement abandonné. Mais l'active jurassienne, animant de son zèle les trois domestiques qui sont sous ses ordres, fait deux fois par mois un nettoyage complet
et entretient en bon état les admirables meubles de l'époque de Louis XIV qui garnissent les appartements de réception. Lorsque Brigitte ouvre les volets du grand salon et que la lumière entre à flot dans les hautes et larges pièces, c'est comme si le rideau d'un théâtre se levait, montrant une décoration merveilleuse de luxe. Sur les murs, les plus belles tapisseries des Gobelins déroulent toute l'histoire d'Alexandre. Et les grands fauteuils font étinceler les velours de Gênes de leurs dossiers entre les bois dorés de leurs bras solennels. Les grands miroirs de Venise réfléchissent pour un instant dans leurs panneaux biseautés, les fleurs du parterre, le jet d'eau capricieux et un petit coin du ciel. Brigitte passe, active, avec un plumeau et un balai. Puis, le nettoyage terminé, les volets se referment et les richesses artistiques du château retombent dans l'obscurité. Dans l'aile habitée, Philippe s'est réservé au rez-de-chaussée un grand cabinet de travail entouré de bibliothèques, aux rayons élevés, auxquels on ne parvient qu'à l'aide d'un escalier à roulettes. Au milieu, une immense table bureau sur laquelle les papiers s'entassent dans un désordre plus apparent que réel. Un très bel encrier de bronze représentant deux amours joufflus qui se battent. Le vainqueur, tout riant, presse dans la bouche du vaincu une grappe de raisin. Sur la cheminée, une admirable pendule de la première bannière de boule en ébène rehaussée de cuivre. À côté du cabinet de travail, la salle à manger, sévèrement garnie de vieux meubles en poirier sculpté. Sur le dressoir, une riche et solide argenterie dont on ne se sert jamais. En retour, un petit salon, meublé de la façon la plus moderne et la plus bourgeoise. Des tentures de popeline de soie bleue et le meuble capitonné en étoffe pareille. Une pendule et des chenets rocailles. Une petite table en marqueterie sur laquelle un ouvrage de broderie commencé semble attendre le retour de Suzanne. Dans les deux grands panneaux, deux portraits, ceux de M. et Mme d'Herblay, exécutés avec plus de conscience que de talent, par un médiocre élève de Flandrin. Au premier étage, deux vastes chambres communiquant par leur cabinet de toilette, celle de Philippe et celle de Suzanne. L'une, grave et sombre, tendue en velours frappé à vannes et meublée en bois noir, n'ayant pour tout ornement qu'une panoplie d'armes modernes, au milieu de laquelle on remarque un bidon d'infanterie percé de trois balles, souvenir de Pont-Noyel. L'autre, virginale et fraîche comme celle qui l'habite. Mousseline blanche tendue sur une étoffe bleue et relevée par des nœuds roses. Meubles laqués blancs rehaussés de filets bleus. Et tous les petits colifichets qui ornent si gentiment une chambre de jeune fille. De sa fenêtre, Suzanne voit les profondes allées du parc qui se perdent dans un lointain de verdure. Elle y serait à l'aise pour rêver si la rêverie pouvait assombrir un seul instant la vive gaieté de son insouciante jeunesse. C'est vers son cabinet que Philippe, après avoir vu sa sœur s'éloigner, entraînait Bachelin. Il se doutait que le notaire arrivait de Beaulieu et, comme tous les amoureux, il était impatient de connaître les détails, importants ou futiles, que son vieil ami ne manquait jamais de lui apporter de chacune de ses entrevues avec les nobles habitantes du château. Mais ce jour-là, Bachelin ne paraissait pas en humeur de parler. Et, assis dans un fauteuil, il regardait distraitement le maître de forge qui se tenait planté devant lui comme un point d'interrogation. Philippe ne put se modérer plus longtemps et, abordant franchement la question, « Avez-vous fait part de ma proposition d'arrangement à Madame de Beaulieu ?» dit-il avec un calme affecté. « Sans doute. Eh bien, l'a-t-elle trouvée suffisante et acceptable ?»« Parfaitement. » Philippe regarda de travers Bachelin qui s'obstinait à répondre avec un laconisme désespérant. Puis, se décidant à entrer dans un ordre d'idées plus intime, « Et avez-vous aussi offert la jouissance de ma chasse ?»« Pourquoi faire ?» riposta tranquillement le notaire en lançant au maître de forge un regard railleur. « Comment, pourquoi faire ?» s'écria celui-ci étonné. « Dame, reprit Bachelin, je n'avais pas à faire cette offre, puisque vous l'aviez faite vous-même ce matin au marquis, et de la façon la plus romanesque. » Philippe rougit un peu et baissa la tête avec embarras. « Ah, monsieur de Beaulieu vous a parlé de notre rencontre, » dit-il. Mais il ne savait pas à qui il avait eu affaire. « Je le lui ai appris. » Fallait-il aussi lui déclarer que si vous aviez si bien garni son carnier, c'était par amour pour sa sœur ?
Mon ami !
Ah ah ! Est-ce que vous vous rétractez ? Demanda gaiement Bachelin. Est-ce que vous n'aimeriez plus mademoiselle de Beaulieu ?
Plutôt ciel, car c'est une grande folie, répondit Philippe. Comment moi, homme de travail, éloigné depuis si longtemps du monde, ai-je pu penser à cette jeune fille, si belle, si fière, et par cela même peut-être plus tentante ? Je l'ai aperçue, grave, réfléchie, un peu inquiète, sans doute de voir son fiancé éloigné d'elle. Et malgré moi, sans y prendre garde, je me suis laissé aller à l'aimer. J'ai oublié la distance qui la sépare de moi, je n'ai plus vu la différence de nos origines. La voix de la raison, les conseils de l'expérience, je n'ai rien écouté que l'amour qui chantait irrésistiblement dans mon cœur. Ah, mon vieil ami, je suis honteux de moi-même, mais je ne puis résister à cette folle passion qui me fait éprouver une joie inconnue, une ivresse exquise, qui me donne tout enfin, excepté l'espérance. Car là s'arrête mon aveuglement, et je n'espère pas, je vous en donne ma parole.
Vous n'espérez pas, c'est entendu, reprit légèrement Bachelin, mais enfin, vous aimez, voilà qui est acquis. J'ai donc eu, n'est-il pas vrai, raison de parler comme je l'ai fait à la marquise ?
De parler ? Balbutia Philippe, très troublé.
Comment ? De parler ? Mais pourquoi dire ?
Eh bien, mais ce que vous pensez, ce que vous venez de m'exprimer, à moi, dans un langage aussi passionné que persuasif.
Le maître de forge recula d'un pas, ses yeux s'enfoncèrent sur ses sourcils et devinrent noirs. Il mordit violemment sa lèvre et d'une voix qu'il s'efforçait de rendre calme.
« Mais vous avais-je prié, dit-il, de faire à madame de Beaulieu de telles confidences ?»«
Non, c'est vrai, vous ne m'en aviez pas prié, reprit Bachelin avec tranquillité. Mais, ma foi, j'ai trouvé l'occasion bonne et je n'ai pas hésité. Voyez-vous, il n'est rien de tel que les positions nettes. » Vous auriez lanterné encore pendant des semaines et peut-être des mois. Vous vous seriez enfoncé plus avant dans cette aventure d'amour. Il valait mieux tout dire une bonne fois, quitte à être repoussé avec hauteur. Voilà les raisons qui m'ont déterminé. Est-ce qu'elles ne vous semblent pas être de poids ?
Philippe resta silencieux. C'était à peine s'il avait entendu Bachelin. Ses idées tournées, confuses dans sa tête, il avait perdu la notion de son existence. Il lui semblait qu'il était emporté dans d'immenses espaces par un rapide mouvement. L'air sifflait dans ses oreilles et ses yeux ne parvenaient point à se fixer sur un objet. Il voyait comme au travers d'un brouillard. Et dans son cerveau endolori, une voix persistante et qui le fatiguait horriblement, répétait comme une vague révélation du destin
« Claire, si elle allait être à toi !»
La voix de Bachelin le tira de son engourdissement.
« Eh bien, pourquoi me regardez-vous ainsi avec des yeux fixes ? » dit le notaire. « Vous avez l'air d'un songe creux. »
Philippe passa la main sur son front, comme pour effacer une impression pénible, puis, souriant à son ami,
« Excusez-moi, j'ai été troublé à la pensée que vous aviez joué une si grave partie sans que j'en fusse prévenu. Je ne vous croyais pas d'humeur à le faire, sans quoi je vous aurais prié de garder le silence. » Depuis le jour où j'ai eu la faiblesse de vous avouer mon amour pour mademoiselle de Beaulieu, je n'ai cessé de regretter d'avoir si légèrement parlé. Mais il semble, quand on aime, que le cœur soit trop étroit pour enfermer toute la tendresse qu'il doit contenir, et malgré soi, on en laisse échapper plus qu'il ne faudrait. Les aveux vous montent aux lèvres, et il est impossible de les arrêter. À peine vous avais-je parlé que l'illusion s'était dissipée et que la vérité m'apparaissait impitoyable. Mademoiselle de Beaulieu ne m'a jamais fait l'honneur de s'apercevoir que j'existe. Elle est riche, fiancée à son cousin, elle sera duchesse. Et il faut que je sois un véritable insensé pour l'aimer. Aussi, je mérite un châtiment et je suis prête à le subir. Dites-moi tout, allez, ne me ménagez pas. Eh bien, je vous dirai d'abord que mademoiselle de Beaulieu n'est plus riche, ne sera probablement jamais duchesse, et que jamais un honnête homme tel que vous n'a eu autant de chances d'être agréé par elle qu'en ce moment. » À ces mots, Philippe devint si pâle qu'il parut près de s'évanouir. Il poussa un cri de joie, et les jambes cassées par l'émotion, le jeune homme s'abattit sur un fauteuil. « Oh, prenez garde, ne me donnez pas d'espoir, il me serait trop dur après d'y renoncer. » Eh oui, je vous donne de l'espoir, reprit Bachelin, et, en le faisant, je trahis pour vous tous les secrets de la famille de Beaulieu. Mais vous avez tant d'intérêt à être discret que ce n'est pas vous qui répéterez ce que je viens de vous dire. » Et comme Philippe lui saisissait les mains, attachant sur le notaire des yeux brûlants de curiosité, « Mademoiselle de Beaulieu est ruinée par la perte du procès d'Angleterre, reprit Bachelin, et elle l'ignore. Le duc de Bligny est à Paris depuis 6 semaines et la délaisse, et elle ne s'en doute pas davantage. Le jour où Mademoiselle Claire apprendra qu'elle est abandonnée, il s'élèvera dans son cœur une tempête effroyable. Et ceux qui seront apportés pourront recueillir bien des épaves. Ruinée et abandonnée, s'écria Philippe, cette jeune fille accomplie, cette femme adorable, et qu'a-t-elle besoin de fortune? Le seul trésor qu'il faille attendre d'elle, c'est elle. Oui, certes, et c'est bien sous cet aspect de pur désintéressement que je vous ai montré. Oh, dites-le bien, s'écria Philippe avec feu. Dites-le à Madame de Beaulieu et à elle-même, je vous en supplie. Puis, s'arrêtant comme assombri par une pensée désespérante. Mais non, reprit-il, ne dites rien. Elle est fière et hautaine. L'idée qu'elle peut devoir quelque obligation à l'homme qui sera son époux l'éloignerait de moi et la déterminerait à me repousser. Prévenez la marquise, faites-lui approuver mes scrupules et surtout, engagez-moi vis-à-vis d'elle. Oh, je recevrai la main de Mademoiselle de Beaulieu à genoux. Mais je veux qu'elle se croie riche afin qu'elle puisse m'accepter ou me refuser librement. Et dussé-je, en l'épousant, lui assurer tout ce que je possède, ce sera encore elle qui m'aura fait une grâce. « Là, là !» fit Bachelin en interrompant Philippe par un geste affectueux. « Vous courez la poste. Que c'est beau la jeunesse et la passion. Mais il faut aller d'un train plus raisonnable. Il ne s'agit en ce moment que de vous présenter au château. À défaut d'autres satisfactions, vous aurez celle de contempler l'objet de vos désirs, comme on disait au siècle dernier. Soyez grave et calme. Comportez-vous avec la discrétion que comporte votre situation. Et amenez votre sœur. Elle vous servira de paravent, on s'occupera d'elle, et pendant ce temps-là, vous serez tranquille. « Et quand faut-il aller à Beaulieu ?» demanda Philippe avec un trouble visible. « Ah, ça, est-ce que vous avez déjà peur avant même d'être parti ?»« Eh bien, allez-y demain. Une bonne nuit vous remettra d'aplomb. Vous jouirez de tous vos moyens et de tous vos avantages. » Et se levant lentement, le notaire prit sa serviette, la plaça sous son bras et fit quelques pas vers la porte. Puis, s'arrêtant au milieu du cabinet, « Regrettez-vous encore que j'aie parlé à Madame de Beaulieu sans que vous m'y ayez autorisé ?» demanda le notaire en regardant le maître de forge avec un air narquois. « Il est vrai que dans votre trouble, vous ne m'avez pas demandé ce qu'elle avait répondu. »« C'est vrai !» s'écria Philippe. Et par un revirement soudain, de joyeux qu'il était, redevenant inquiet, « Qu'a-t-elle dit ?»« Elle a dit ce qu'elle devait dire dans un cas pareil, à savoir qu'elle n'avait rien à dire et qu'elle ne contraindrait jamais Mademoiselle Claire. Enfin, les banalités habituelles. Mais croyez-moi, la force de la position qu'il faut enlever n'est pas du côté de la mère, elle est du côté de la fille. Ainsi, bon courage. Et là-dessus, je m'en vais dîner. » Et serrant affectueusement la main du maître de forge, Bachelin sortit. Philippe, resté seul, tomba dans une méditation profonde. Il envisagea froidement sa situation et dut s'avouer à lui-même qu'elle n'était pas mauvaise. Mademoiselle de Beaulieu, indignement trahie par son fiancé, devait rester au fond du Jura pendant au moins quelques mois pour laisser le temps passer sur son humiliante déconvenue. Là, il pourrait la voir, l'entourer de soins discrets, et peut-être arriver à ne point lui déplaire. Suzanne serait sûrement pour lui un utile auxiliaire. Il ne la fera point rentrer à son couvent de Besançon, les vacances terminées, et la garderait auprès de lui. Elle deviendrait la compagne de Claire, la gagnerait par sa grâce naïve et tendre. Et peu à peu, elle ferait pénétrer la pensée de son frère dans le cœur de Mademoiselle de Beaulieu. Et le songe prenait l'apparence de la réalité. Philippe voyait marcher lentement, sous les ombrages de Pont-Aven, les deux jeunes femmes. Elles étaient côte à côte, se tenant par le bras, tout à fait sœurs, l'une grande et fière, l'autre mignonne et douce. Il les regardait, et déjà, il lui semblait sentir le parfum discret qui émanait d'elles. Il s'enivrait de cette délicieuse senteur. Il allait les toucher quand soudain une bouche fraîche se posant sur son front l'arracha à son rêve. Et la chère voix de Suzanne murmura à son oreille « À quoi penses-tu, Philippe ?» Comme le maître de forge restait assis, la regardant avec un vague sourire et sans répondre, « Tu ne veux pas le dire ? Faut-il que ce soit moi qui parle ? Eh bien, gageons que tu penses à une belle jeune fille blonde. » Philippe se leva brusquement et, saisissant la main de sa sœur, « Suzanne ! » s'écria-t-il. Mais sous le regard malicieux de la jeune fille, il perdit contenance et ne put continuer. Il resta debout, stupéfait, se demandant par quelle étrange clairvoyance cet enfant avait su deviner si bien ce qui se passait en lui. « Te voilà tout troublé, » reprit Suzanne avec tendresse. « Tu croyais donc ton secret bien caché ? Mais depuis un mois, tu n'es plus le même, et il ne m'a pas fallu beaucoup de finesse pour m'apercevoir que ton cœur n'était plus à moi seul. Oh, je ne suis pas jalouse, va, je t'aime trop pour pouvoir l'être. Et quand je te vois pensif et absorbé, si je m'inquiète, ce n'est pas parce que je crains que tu m'enlèves une part de ton affection pour la donner à une autre, mais parce que j'ai peur que tu aies du chagrin. Je te dois tant, mon Philippe, c'est toi qui m'as gardé, chéri, élevé, quand je suis restée seule, sans père ni mère. Et il me semble que je suis non seulement ta sœur, mais ta fille, l'enfant de tes soins et de tes peines. Va, aime et sois aimée, tu ne me verras que me réjouir. Car je ne sais pas de bonheur assez complet sur la terre pour récompenser un être aussi parfait que toi. » Deux larmes jaillirent des yeux du maître de forge et coulèrent silencieusement sur ses joues. Les douces paroles de sa sœur avaient détendu ses nerfs surexcités. Il se sentait maintenant anéanti. Et, appuyé à la haute cheminée, il restait immobile, regardant la jeune fille qui lui souriait. « Mais voilà que tu pleures à présent, » dit Suzanne. « Mais voyons, c'est donc triste d'aimer. » « Ne me parle plus jamais de ces folies, » interrompit Philippe d'une voix altérée. « Des folies ? Et pourquoi donc ? Quelle femme, te connaissant, pourrait ne pas désirer te plaire ?» Puis, se posant devant lui, la mine hardie et le geste résolu, « Va, je le lui dirai, s'il le faut, à celle que tu aimes. Mademoiselle, vous avez tort de ne pas adorer mon frère, car il n'y a pas un homme au monde auquel il ne soit absolument supérieur. Je puis vous l'affirmer, moi, car je le connais bien et depuis longtemps. Et je serai si éloquente qu'elle viendra elle-même au-devant de toi te tendre la main avec une belle révérence et te dire « Monsieur, vous avez pour sœur une petite personne qui est si extraordinaire que je n'ai pu méconnaître plus longtemps votre mérite. Voulez-vous me faire la faveur d'être mon époux ? Et toi, tu t'inclineras avec grâce en répondant d'un air réfléchi. « Mon Dieu, mademoiselle, ce sera donc pour vous être agréable. Moi, je vous bénirai d'un air protecteur et solennel, et vous serez bien heureux. Ah, tu vois, tu ris, tu es consolé. » Et Suzanne, prenant tendrement par le bras son frère, dont l'émotion n'avait pu résister à tant de vive et folâtre gaieté, l'entraîna au dehors en disant « Viens faire un tour de jardin en attendant ton mariage. »